Je n'ai guère eu l'occasion de fréquenter du beau monde, des nobles, des personnes célèbres ou richissimes. Mais une fois, j'ai quand même eu l'opportunité de rencontrer un homme d'affaires qui était à la tête d'une multinationale. Nous parlions à bâton rompu en évoquant divers problèmes de société et il m'a fait part d'une expérience remarquable qu'il a vécue quand il a fait construire plusieurs usines par la même entreprise de bâtiment. Il expliquait au bureau d'études ce qu'il voulait, puis quelque temps plus tard, il allait voir le PDG, et tous deux se mettaient d'accord sur les plans et le prix. L'affaire était alors conclue sans qu'aucun contrat en bonne et due forme, où tout est écrit noir sur blanc, ne soit rédigé. Seulement une poignée de main. Il existe encore des gens qui font exactement ce qu'ils disent. On peut dépendre de leurs paroles comme sur de l'argent comptant. De nos jours, les exagérations, les demi-vérités et même les gros mensonges sont aussi répandus que l'air du temps. Je suis sûr que vous avez remarqué qu'il n'existe pas une seule publicité qui dise toute la vérité et rien que la vérité. Et les politiciens parlent un langage très particulier qu'on appelle la langue de bois et qui leur permet de tordre le sens des mots dans toutes les directions. Avant d'être élus, ils promettent la lune, mais une fois au pouvoir, ce sont des gros nuages noirs qui s'amoncellent. Autant sous l'ancienne alliance qu'au premier siècle, la fidélité à sa parole était une vertu personnelle et une valeur sociale. Son sens de l'honneur en dépendait. S'appuyant sur la loi de Moïse, Jésus a dit « Si ton frère ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou de trois témoins. » Oui, mais une telle démarche ne peut être effectuée et réussir que si les témoins en question sont dignes de foi, ce qu'on tenait à l'époque pour acquis. L'apôtre Paul admet lui aussi que les gens disent la vérité quand il écrit aux Corinthiens « Voici donc la troisième fois que je viendrai chez vous, comme le dit l'Écriture, toute affaire sera réglée sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Notre société a subi un bouleversement considérable de ses valeurs qui fait que les gens se demandent d'où provient notre sens moral et d'où provient cette curieuse idée d'être digne de foi. Cette question serait légitime si, comme on nous l'enseigne, l'homme descendait effectivement d'un primate, étant donné que les animaux ne possèdent pas un sens du bien et du mal, mais agissent en fonction de leurs instincts. La réalité est tout autre. L'homme a été créé à l'image de Dieu, et il porte en lui la marque du caractère de son Créateur qui est le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui est droit, juste et fidèle à sa parole. Je continue à lire dans le second chapitre du livre du prophète Agée. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Selon l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte, mon esprit est présent au milieu de vous tous. Vous n'avez rien à craindre. Verset 5. J'ai une entière confiance dans les versions des Saintes Écritures que nous possédons. Cependant, il faut quand même tenir compte que nous n'avons que des copies des manuscrits originaux et que ces reproductions divergent. Ainsi, la phrase « selon l'engagement que j'ai pris envers vous quand vous avez quitté l'Égypte » n'apparaît pas du tout dans l'ancienne version grecque parce qu'elle n'existait pas dans les manuscrits hébreux qui ont aujourd'hui disparu, mais que les 70 sages ont utilisé pour la traduction qui a donné l'ancienne version grecque, appelée aussi la Septante. Par contre, ce qu'on appelle le texte hébreu traditionnel contient bien cette phrase, et comme c'est ce manuscrit qu'on utilise comme base de traduction, Elle se trouve dans nos Bibles. Un autre problème que nous rencontrons et que j'ai déjà souligné est qu'il arrive parfois que le texte hébreu traditionnel soit obscur, difficile à comprendre, et qu'il puisse être interprété différemment. Une troisième difficulté provient de l'hébreu biblique lui-même, parce qu'il ne comporte que des consonnes. Or, parfois, le même mot peut être vocalisé de plusieurs façons, ce qui donne un sens différent. Moi aussi, je préférerais que tous les détails qui constituent tous les domaines de la vie puissent être rangés dans une case qui soit blanche ou noire. Malheureusement, le plus souvent, c'est le gris qui domine. En hébreu, l'expression, selon l'engagement que j'ai pris envers vous, est simplement la parole que je. Par son prophète, l'Éternel donne un message d'encouragement aux colons abattus. Il veut détourner leur regard de la situation déprimante dans laquelle ils étaient plongés et diriger leur attention vers le futur glorieux de leur peuple. Il est en effet très facile de perdre de vue la forêt à cause des arbres qui s'y trouvent. Tout comme une pièce de 10 centimes juste devant l'œil bloque le soleil de la vue, nos circonstances présentes nous empêchent de voir qu'au-delà, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. L'apôtre Paul écrit: Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Les colons pouvaient espérer une intervention de l'Éternel en leur faveur, à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres dans le passé. Moïse a dit à Israël, Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Parce que les colons juifs font partie du peuple de Dieu, ils ont accès à lui et ils ont le droit de l'appeler à leur secours. Mon esprit est au milieu de vous est une promesse de l'Éternel d'agir envers les colons juifs comme il l'a fait autrefois lorsque les Hébreux sont sortis d'Égypte. Cela veut dire qu'il va providentiellement ordonner la séquence des événements et ôter les obstacles qui les empêchent de poursuivre à un bon rythme les travaux du temple. Cependant, Dieu n'est au milieu des Israélites que lorsque ceux-ci lui obéissent, ce qui fut rarement le cas dans leur histoire. Quand ils sombraient dans l'idolâtrie et dans d'autres vices, ils étaient généralement punis très sévèrement. Alors ils se repentaient, se remémoraient comment, par son esprit, Dieu les avait délivrés des Égyptiens et conduits sous la direction de Moïse, puis ils criaient à l'Éternel pour être délivrés de leurs ennemis. Le prophète Ésaïe décrit ce processus sous une forme poétique et je le cite. Ils se sont souvenus des temps anciens et de Moïse et ils ont dit, Où est celui qui a fait sortir de la mer son troupeau avec son berger? Et où est celui qui a mis son Esprit Saint au milieu d'eux? Celui qui a tendu son bras glorieux aux côtés de Moïse pour fendre les eaux devant eux et qui s'est fait ainsi un renom éternel. Oui, il les a fait avancer à travers les abîmes comme un cheval dans le désert sans qu'il trébuche. Il ressemblait à un troupeau qui rejoint la vallée lorsque l'esprit de l'Éternel les a menés vers le repos. Ainsi, tu as conduit ton peuple et tu t'es fait une glorieuse renommée. La promesse de l'Éternel d'être au milieu des colons juifs est l'occasion de souligner la différence entre le ministère du Saint-Esprit sous l'ancienne et sous la nouvelle alliance. L'Éternel était avec le peuple d'Israël et ce n'est qu'exceptionnellement qu'il résidait à l'intérieur de l'un d'entre eux, car il fallait que cette personne ait été choisie pour accomplir une tâche spécifique, comme ce fut le cas des prophètes et du roi David. Dans une prière de repentance, ce dernier implore Dieu et dit « Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. » Quant aux prophètes, L'apôtre Pierre écrit qu'il cherchait à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Aujourd'hui, par contre, le Saint-Esprit établit sa résidence dans chaque croyant. L'apôtre Paul écrit: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et dans la dernière lettre qu'il a écrite et qui fut adressée à son disciple Timothée, Paul dit « Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. » Non seulement le Saint-Esprit habite chaque croyant, mais il est également présent au milieu d'eux dans l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens « Unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Alors que précédemment, l'Éternel a dit à toute la colonie juive « Courage !» trois fois de suite, ici il ajoute « Vous n'avez rien à craindre », ce qui revient au même. Nous sommes véritablement comme des moutons, facilement apeurés. C'est sans doute pour cette raison que sous une forme ou sous une autre, il paraît que l'exhortation de ne pas craindre se trouve 366 fois dans les Écritures, une fois pour chaque jour, y compris les années bissextiles. L'apôtre Paul écrit « Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ?» D'un côté, l'Éternel ordonne aux colons juifs d'être forts, de prendre courage et de ne pas craindre. Mais d'un autre, il fait dire à Zorobabel par le prophète Zacharie « Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. » Ici encore, on observe ce paradoxe. Dieu s'occupe de tout, mais en même temps, il veut que son peuple mette tout son cœur dans l'ouvrage sans se laisser intimider par les difficultés et qu'il se donne corps et âme comme si le résultat final ne dépendait que de lui. Je continue le texte du livre d'Agée. Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore, et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples. Versets 6 et 7. Une fois encore, fait référence au futur tout en rappelant le passé fondateur du peuple de Dieu, c'est-à-dire la promulgation de la loi de Moïse sur le mont Sinaï. Cet événement unique dans l'histoire fut effectivement accompagné d'un grand chamboulement. L'expression « j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme » décrit un cataclysme terrestre et céleste dû à une intervention surnaturelle. Cette image, fréquente dans les Écritures, annonce des bouleversements aussi bien politiques, sociaux que religieux, et surtout ceux qui auront lieu le jour de l'Éternel, jour grand et terrible, qui verra l'ordre naturel de la création et l'humanité secouée. Le prophète Joël écrit « Il rugit, l'Éternel, à partir de Sion et de Jérusalem, il donne de la voix, et le ciel et la terre sont ébranlés. » L'expression « dans peu de temps » doit être comprise selon la perspective du prophète qui ne voit pas et donc ne tient pas compte de cette période que nous vivons actuellement, qui s'appelle le temps de la grâce et qui se terminera par l'enlèvement de l'Église. Agée voit ce qui arrivera au-delà de cet interlude quand Dieu reprendra son programme avec Israël, programme qu'il a interrompu après le rejet de son fils par les autorités religieuses juives qui l'ont livré aux Romains. Dans sa vision prophétique, Agée décrit les 7 années de tribulation pendant lesquelles le ciel et la terre, la mer et la terre ferme seront ébranlés plusieurs fois. Concernant son retour sur terre, Jésus a dit: il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Ce chamboulement universel, ainsi que la seconde venue du Christ, prendra l'humanité par surprise. L'apôtre Paul écrit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quand le prophète Agée a fait sa prédiction, les colons juifs avaient 2 événements en tête auxquels ils pouvaient comparer les bouleversements à venir. Premièrement, à cause de leur culture, ils avaient dans leur mémoire les secousses du mont Sinaï après la sortie d'Égypte de leurs ancêtres. Deuxièmement, ils avaient présent à l'esprit les récents chamboulements qui avaient secoué l'Empire perse après la mort de Cambyse et avant l'accession au pouvoir de Darius Hystape. Agée annonce des bouleversements bien plus considérables que ceux que je viens de mentionner, car ils déboucheront sur l'instauration d'un monde nouveau. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite ce verset du prophète Agée d'après l'ancienne version grecque, puis l'explique. Je le cite: celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Les réalités inébranlables seront instaurées en même temps que le royaume messianique qui durera 1000 ans, puis continueront dans l'éternité quand Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Je continue le livre d'Agée. Les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. Verset 7. Littéralement, ce qui est convoité par les nations viendront. Le mot traduit par ce qui est convoité est au singulier, tandis que le verbe venir est au pluriel. Dans 2 autres passages, ce qui est convoité désigne les richesses du roi Ézéchias et les objets précieux du temple. Cette explication est confirmée dans la suite où l'Éternel déclare: c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Tout comme les richesses des nations avaient conflué vers Jérusalem sous le règne de Salomon, le même phénomène, mais considérablement multiplié, aura lieu quand du monde entier afflueront dans la nouvelle Jérusalem des gens de toutes les nations, apportant au temple leurs trésors et tout ce qu'elles ont de précieux pour en faire don à l'Éternel. C'est aussi ce qu'a prophétisé Ésaïe. Je le cite: tu le verras alors, tu brilleras de joie, ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses que transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront détournées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. Tu seras submergé par le flot des chameaux, les dromadaires de Madian et d'Épha couvriront ton pays. Tous les habitants de Saba viendront, et ils apporteront de l'or et de l'encens, et ils proclameront les louanges de l'Éternel. Les moutons et les chèvres de Kédar s'assembleront chez toi. Tous les béliers de Nabaioth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel en offrande agréée, et je rendrai splendide le temple où ma splendeur réside. Tes portes jour et nuit seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi les trésors des nations et leur roi en cortège qu'on mène de force vers toi. Il ne fait guère de doute que les paroles du prophète Agé ont mis du baume sur le cœur des colons juifs et leur ont permis de dépasser leurs circonstances présentes. Ils comprenaient désormais que leur travail de reconstruction du temple n'était pas vain, mais qu'ils contribuaient à la gloire à venir de leur peuple et de l'Éternel.